Ça bouge, ça gronde, ça tremble parfois sur notre territoire. Mais où va la Suisse? Je veux dire, en termes géologiques, quel est l'avenir de notre pays?
Dans le futur pas trop lointain, la Suisse, dans 50 millions d'années ou même 100 millions d'années, elle sera plus au nord. Et après, on ne sait plus, ça va changer.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences. Aujourd'hui, on se laisse dériver au fil des continents et des océans et on plongera dans les temps géologiques. On va dériver aussi par ma cuisine et ma chambre à coucher, avec Michel Martaler. Il est professeur émérite à l'Université de Lausanne, géologue et auteur de nombreux ouvrages et de guides de balades géologiques parus aux éditions Loisirs et Pédagogie. Et pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Pour comprendre où va la Suisse, il faut d'abord se pencher sur son passé. Un passé très lointain. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, c'était une boule de feu.
Si on était venu à cette époque-là pour voir ce qui se passait, c'est même pas sûr que la planète était encore ronde. Peut-être qu'elle était comme une espèce de grosse boule de poussière et de petits débris comme les météorites qui s'accrétaient les uns contre les autres. Le Soleil, en naissant, a laissé un peu comme des anneaux de Saturne autour de lui, plein de débris. Et petit à petit, ça s'est aggloméré. Et la chaleur, elle venait de l'intérieur de la planète. Tout se comprimait à l'intérieur, ça faisait du chaud à l'intérieur. Il y avait du volcanisme qui a commencé, justement à cause de ce centre qui était chaud.
Et cette boule s'est refroidie. Une croûte s'est formée à sa surface.
Exactement. C'est grâce à la croûte, probablement, qui se cassait, qui était comme quand on voit la lave qui refroidit, ça fait des croûtes, ça bouge encore en surface, des fois des fissures. Donc c'est ça qui a dû enclencher la tectonique des plaques vers effectivement 4 milliards d'années. Enfin, ça commençait à bouger. Et puis, ce qu'on ne sait pas non plus, en tout cas, ce que je ne sais pas non plus, c'est quand est arrivée l'eau, parce que c'était d'abord très chaud, donc il y avait beaucoup d'eau sous forme de vapeur. Déjà, dans la planète, hein, il y a de l'eau, même encore maintenant, dans le magma volcanique, il y a de l'eau. Et cette eau, avec le refroidissement de la croûte, ça a dû former les premiers océans. Et ça, c'est très important, parce qu'au départ, ce n'était pas une dérive des continents, c'était une dérive des fonds océaniques. Les océans, c'est très mobile aussi. Les plaques océaniques, comme le Pacifique aujourd'hui, ça bouge tout le temps.
Et oui, si vous voulez briller en société, parlez de la dérive des océans, en plus de celle des continents. Mais revenons à nos croûtes sur la planète. Elles bougent parce que l'intérieur de la Terre est chaud. Et pour le constater, direction ma cuisine. Une soupe bout sur ma cuisinière. Cette soupe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre.
On est encore dans cette marmite, cette terre primitive qui était très chaude, on l'a en profondeur. Il y a beaucoup de circulation magmatique, où c'est peut-être pas toujours du magma, c'est peut-être la pâte chaude, qu'on appelle le manteau terrestre, avec des grands cycles, des grands courants de rotation qui partent de la surface aujourd'hui et qui s'enfoncent sous les continents, cette plaque océanique. Puis ça se chauffe en descendant et ça redevient du magma et ensuite ça remonte dans ce qu'on appelle les rides médio-océaniques, comme l'Atlantique qui s'ouvre.
Et on y reviendra à l'Atlantique, car il se passe encore plein de choses là-dessous. Voilà, c'est le principe. Les bulles de pâte chaude remontent le long de la marmite et poussent la peau froide du dessus de ma soupe vers le bas de la marmite. Et ça se produit depuis un sacré bout de temps. C'est pour cela que les plaques tectoniques bougent sur notre planète. De ce passé lointain de notre bébé planète, beaucoup de détails nous échappent encore. Alors, on va sauter quelques milliards d'années et se retrouver il y a 225 millions d'années. Juste au moment où les plaques tectoniques, toutes les peaux sur ma soupe, ne formaient qu'un seul et unique continent. Un continent dont le nom vous dit peut-être quelque chose, la Pangée.
Alors justement, ça c'est la fin de l'histoire qu'on connaît bien. Mais la Pangée, il y en a eu plusieurs avant. Quand on n'est plus qu'à 225 millions d'années, il y a 3 milliards et demi de temps qu'on a sauté. Donc pendant ces 3 milliards, il y a d'abord la vie qui était apparue. Il y a eu des premiers continents dont on ignore la forme. Les océans, ils étaient même un peu moins nombreux qu'aujourd'hui, je pense. Ils sont un peu agrandis au cours du temps, au cours des rencontres. Donc il s'est passé plusieurs fois des rencontres de continents, comme des moments où tout était dispersé, il y avait des îles partout. Ça a énormément changé entre 3 milliards d'années et disons 250. Mais vers 250 millions d'années, c'est effectivement la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, pour prendre l'ancienne appellation des aires. Cette Pangée, elle a pris du temps pour se fabriquer. Elle a commencé à fabriquer il y a 300 millions. Elle a commencé à se décomposer, à se détacher, à se recasser il y a 225 millions d'années. C'est le début de l'écartement pour refaire des continents. L'Afrique d'un côté, l'Amérique de l'autre, etc.
Et la Suisse, notre confetti helvétique qui n'imaginait même pas de s'appeler ainsi, où se trouvait-elle à ce moment-là ?
À cette période de la Pangée, il y avait une chaîne de montagnes qui s'est formée au centre de la Pangée, qui réunissait le nord du monde avec le sud du monde. Il y avait au sud le Gondwana, qui était un immense continent avec l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique, et puis au nord avec l'Eurasie, avec l'Amérique du Nord aussi. Et tout ça s'est rapproché pour former la Pangée. Donc, il n'y avait pas l'Atlantique. L'Atlantique est un océan jeune par rapport à l'histoire de la Terre. Si vous voulez, l'Atlantique est une première déchirure vers 250 millions d'années, 225. Donc, la Suisse, elle se trouvait quelque part, un confetti, au milieu de cette ancienne chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve des roches de cet âge-là au Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est la chaîne hercynienne. C'est une ancienne chaîne qui a été rehaussée grâce aux Alpes. Mais on a aussi des traces de cette chaîne hercynienne en Bretagne, dans le nord de l'Europe. Donc la Suisse était par là, était au milieu de la Pangée.
Et il suffit de regarder une carte géographique actuelle pour voir que les continents semblent s'emboîter les uns dans les autres, comme les pièces d'un puzzle qui auraient été séparées soigneusement les unes des autres. Mais les géologues vont plus loin. Ils reconstituent l'histoire d'avant.
Par exemple, dans le Jura, on sait qu'on est au bord d'une mer, on sait qu'au nord du Jura, disons, au nord de l'Europe, c'était plus ancien. Aujourd'hui, on a des très vieilles roches. Et puis qu'au sud du Jura, quand on arrive dans les Alpes, on a des roches océaniques même. Donc au Jura, on est au bord de la mer, grâce aux traces de dinosaures. Donc on peut recréer cette géographie grâce aux roches.
Et qui a dit que les cailloux ne parlent pas ? En les observant soigneusement, ils nous révèlent leur âge. Pour le commun des mortels, un caillou, ça date de Mathusalem. Mais les scientifiques savent être un peu plus précis. D'ailleurs, ils parlent de roches.
Et ça, il y a beaucoup de micro-paléontologues, on travaille dessus depuis très longtemps, qui ont l'échelle des temps géologiques. D'abord, qu'est-ce qui est plus vieux, qu'est-ce qui est plus jeune. Puis après, on a pu dater, grâce au volcanisme, le moment où la lave s'est refroidie, qui était riche en uranium. Et moins il y a d'uranium, quand elle se refroidit, plus la roche est vieille. La roche qui est froide depuis un milliard d'années, elle contient presque plus d'uranium. Mmh. Donc on peut doser ça.
Mais ensuite, il faut essayer de comprendre comment ces plaques de roche se sont déplacées au fil du temps. Pour y arriver, je me suis livrée à une expérience de terrain. Enfin, dans ma chambre à coucher. En faisant mon lit. Je glisse le duvet sous l'oreiller.
Votre duvet, s'il est plus gros, s'il descend sous votre oreiller va monter. Pour reprendre l'idée de l'Inde, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est une chaîne de montagnes qui se fabrique, l'Himalaya. Cette plaque indienne, justement, il y avait des sédiments dessus qui se sont déposés. Comme la plaque glisse, ça, c'est raclé. Donc, si vous voulez, comme on bourre de la matière par en dessous, on fait monter la croûte terrestre.
Ah ah! Et qui va en dessous ? Qui est le duvet ? Qui est l'oreiller ? Pourquoi une des plaques passerait sous l'autre ?
Les deux continents ensemble, s'il n'y a pas d'océan entre les deux, ça fait une collision frontale. Il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui s'enfonce sous l'autre. Par contre, s'il y a un océan au nord du continent, par exemple pour l'Inde, ça a permis à cette plaque indienne, qui était continentale et océanique, l'Inde tout autour c'était des océans, ça s'est enfoncé sous l'Himalaya et l'Inde a été tirée vers le bas par cette croûte océanique qui est descendue dessous. Donc c'est vraiment la plaque océanique qui glisse sous la plaque continentale. Parce que la plaque océanique, elle est plus lourde. Dans les fonds océaniques, dans les basaltes, il y a beaucoup de fer. Tandis que dans les plaques continentales, le haut de la croûte continentale, c'est des sédiments. Et c'est plus léger, c'est des sables durcis, des grès ou des calcaires, grâce aux coraux. Aussi du granit, qui est beaucoup plus léger. Donc tout ça, ça forme une croûte plus légère.
qui va être soulevée par la couche plus dense du fond. Mais contrairement à mon duvet sous l'oreiller, au cours de ce glissement, cette subduction, c'est le terme géologique, des plis se forment parfois lorsque les plaques continentales se rencontrent. Et ces plis montent jusqu'à former des chaînes de montagnes. En continuant les recherches de terrain, enfin chez moi, les plots de mon fils m'apportent une aide bienvenue.
Il ne faut pas empiler des choses les unes sur les autres. Il faut empiler des choses les unes sous les autres. C'est plus compliqué, hein. Il faut enfiler des plots sous le plot. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, ce qu'on construit, ça se casse la figure parce que ça devient instable. On construit une chaîne de montagne en encastrant de la matière sous. Alors après, il y a une dernière phase de construction de la montagne qui est l'érosion, qui va gratter un peu le haut de la pile et qui va nous montrer qu'est-ce qui s'est empilé au cours du temps. Disons, c'est comme ça qu'on a des montagnes. C'est grâce à la subduction ou l'enfoncement des plaques océaniques ou de la partie océanique des plaques.
Et ce qui pousse ces plots les uns sous les autres, ce sont des ouvertures de l'autre côté de la plaque.
Le continent indien, il s'enfonce sous l'Himalaya. Mais pourquoi est-ce qu'il s'enfonce sous l'Himalaya ? Parce que l'océan Indien, au sud de l'Inde, s'ouvre encore. C'est-à-dire, l'Inde s'écarte de l'Antarctique encore aujourd'hui. Il y a une fissure au milieu de l'océan Indien. Donc tout ça est compensé par les pertes de matière vers la profondeur et puis ensuite la matière qui revient par les volcans.
Nous avons une chance incroyable en Suisse d'avoir de nombreuses montagnes. Depuis ma fenêtre, j'aperçois le mont Salève. Il se situe en Haute-Savoie, en France. Mais il est presque à nous, ce Salève. Et pour qui sait l'entendre, cette montagne, comme d'autres, a elle aussi des tas de choses à nous raconter.
Chaque montagne raconte plusieurs histoires. Quand on regarde le Salève ou quand on regarde les tours d'Ailly, on voit effectivement des couches avec des roches calcaires. C'est l'histoire des roches. D'abord, il faut des roches, pour simplifier. Puis ensuite, on voit que ces roches, même aussi celles du Salève, si de loin ça apparaît presque horizontal, elles sont tordues, elles sont faillées. Donc intervient une deuxième histoire, la tectonique des plaques, justement, puisque tous ces calcaires qui se sont déposés, ils ne se sont pas déposés là où il y a le Salève. C'était probablement bien plus au sud. Donc dans le passé, la Suisse, elle était plus au sud. Et l'histoire 3, c'est grâce à l'érosion. Donc le Léman, c'était le Léman d'abord sous forme de glacier, qu'on appelait le glacier du Rhône. Ça allait jusqu'à Lyon, c'était un super glacier rhodanien. Ça a enlevé une immense partie, donc ça a fait l'immense trou du Rhône, quoi.
Et c'est aussi ce qui a façonné le Salève, aux portes de Genève, et la Suisse. Un petit confetti plissé sur plus de la moitié de son territoire par le chahutage et l'usure des plaques tectoniques.
Les montagnes Alpes ont commencé à se former il y a environ 50 millions d'années pendant l'ère tertiaire. C'est-à-dire que là, on était au bout de l'histoire de la Tétis. La Tétis, donc, c'est un océan qui s'est créé pendant l'ère secondaire. C'est-à-dire que de la Pangée, on a un seul continent. Ensuite, on écarte ce supercontinent en deux avec un océan est-ouest. Tout un océan, là où aujourd'hui il n'y a plus que la Méditerranée qu'un tout petit peu, qui va jusqu'à l'océan Indien pendant environ 200 millions d'années.
Et à ce moment-là, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont collés ensemble. Ils seront séparés par un nouvel océan, l'Atlantique.
Et ensuite, comme une fermeture éclair, on a petit à petit ouvert l'Atlantique Sud vers 100 millions d'années. Donc c'est l'Amérique du Sud qui s'est distinguée du sud de l'Afrique. Et puis seulement maintenant, on ouvre l'Atlantique Nord. Alors on a un exemple fabuleux aujourd'hui, c'est l'Islande. On est en plein écartement de l'Atlantique Nord, d'ouverture de l'Atlantique Nord. Et l'Islande, justement, les pauvres habitants là-bas, ils doivent déménager parce que ça peut ne faire que s'écarter. Jamais cette fissure va se refermer.
On quitte l'Islande actuelle. On revient 225 millions d'années en arrière, vers les Alpes et leur formation. Avec l'ouverture de l'Atlantique Sud, la plaque africaine est poussée vers le nord-est.
Puis petit à petit, ça va commencer à créer des montagnes sous-marines. Ça, il y a peut-être 100 millions d'années. Il y avait déjà quelques premières toutes petites îles. Et puis à 50 millions d'années, on a vraiment, vraiment une vraie chaîne qui commence à s'ériger. Les Alpes montent, 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 montent. Et puis à partir de 20 millions d'années, ça se calme un peu. Et maintenant, on est sur la fin de la construction des Alpes.
Mais il n'y a pas que les Alpes en Suisse. Il y a d'autres montagnes.
Les plis du Jura sont beaucoup plus jeunes que les Alpes. Ils datent de 10 millions d'années ou 5 millions d'années. Donc ça, c'est extrêmement jeune, le plissement du Jura.
Et c'est une conséquence du plissement des Alpes. Ça fait pas un pli, c'est le dernier pli. Notre Helvétie toute fripée, j'y tiens, moi. Qu'est-ce qu'il attend ? Peut-on prévoir son futur géologique ?
C'est difficile d'être prophète. Dans peut-être un futur lointain, c'est le sud de l'Europe qui va former une immense chaîne de montagnes comme l'Himalaya. Donc toute l'Italie va monter, toute l'Espagne, la plaque ibérique va être coincée entre la plaque africaine et la plaque européenne. Ça va faire peut-être une grande chaîne de montagnes dans le futur.
Une chaîne de montagnes au sud des Alpes. Bien, bien. Et notre territoire ?
Il sera peut-être un peu au nord. Ce sera un grand nord des Alpes. Ça ne s'appellera plus les Alpes. Les humains auront changé ou pas disparu, mais disons, donné des nouveaux noms. Parce que c'est à l'échelle de millions d'années. Si on prend le futur de la Suisse à l'échelle d'une centaine d'années ou d'un millier d'années, alors là, on n'aura pas beaucoup bougé, quelques centimètres quand même, même 1 ou 2 mètres. Enfin, c'est l'idée du centimètre par an, la vitesse de la tectonique des plaques. Donc, entre notre naissance et notre mort, la Terre a bougé de peut-être 1 mètre maximum. Les continents, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal.
Et après ?
Quand la Méditerranée se sera refermée, qu'on aura une chaîne de montagnes, ça va peut-être ouvrir un océan au milieu de l'Afrique, allez savoir. Il y a des zones qui s'écartent déjà un peu aujourd'hui, par exemple aussi le nord de l'Europe, là où il y a la vallée du Rhin, il y a plusieurs grandes failles. Il y a la forêt noire d'un côté, de l'autre côté, les Vosges, où il y a Bâle, tout ça. Là, ça s'écarte. Donc on peut imaginer que ça continue à s'écarter vraiment de plus en plus. On appelle ça du rifting. Et il y aurait peut-être de l'eau de la mer du Nord qui va se mettre là où il y a le Rhin.
Et ensuite ?
Les géologues n'arrivent plus à rien dire à partir de 100 millions d'années dans le futur.
Un nouveau supercontinent pourrait se former. Le soleil, de son côté, serait un peu plus chaud. Et le gaz carbonique rejeté par le volcanisme n'arrangerait rien à l'affaire. De grandes parties de notre planète pourraient devenir désertiques. Les cailloux racontent notre passé et nous permettent d'imaginer la suite de notre histoire, malgré ces échelles de temps qui nous dépassent. De l'autre côté de la planète, dans l'océan Atlantique.
Scientists have been shocked by the discovery of rocks made up of plastic debris in this remote turtle refuge, located in Brazil's volcanic Trinidad Island.
Sur l'île de Trinidad, de nouvelles roches sont apparues. Elles sont formées d'un mélange de plastique et de sédiments. Ces cailloux-là racontent une autre histoire, celle de notre présence sur Terre. Si cet épisode vous plaît, faites-en écho sur le réseau social de votre choix. Et abonnez-vous sur Play RTS, Spotify ou Apple Podcasts. Et si vous avez des questions, l'adresse microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel, se trouve à un jet de pierre de votre messagerie en ligne. C'est grâce à une équipe solide comme un roc que Microscience tutoie les sommets. En cordée avec moi, il y a Camille Dupont-Laït, coproductrice, un océan de sagesse. Jérôme Nussbaum à l'habillage musical et à la réalisation qui façonne les contours du son. Andrea Glanville, attachée de production, qui assure la cohésion des épisodes. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, toujours prête à explorer de nouveaux territoires scientifiques. À bientôt.